FM 93.
Bouchard en parle. J'ai pris un verre avec.
Ah ben là, je suis content.
Oui.
Ben là, je suis content parce que c'est ça que je sais. Je pense que le public va aimer autant. Pascal CV a pris un verre avec, connaissez la formule, on s'en va d'un resto, d'un bureau ou de quoi, là, qui n'est pas un studio de radio ou de TV. En dehors, on prend un verre, on jase de tout et de rien. Avec.
Là, je vends pas de punch, là, mais juste vous dire, quoi? On a des bons qui s'en viennent.
Ah oui, mais non, on ne vend pas de punch.
Non, je vends pas de punch. Juste
on a pris. Non, mais on a un bon matin en partant.
Oui, aussi.
On a... Jean-Luc Mongrain. Moi, il a fait partie un peu de mon apprentissage de journaliste ou de gens des coms, parce que. Vous connaissez mon style, moi j'aime ça, commenter l'actualité. Puis un des premiers qui a commenté l'actualité à la télé, à la radio, ça existait, là. Tu sais, au Saguenay-Champagne, ici Arthur, il y en avait. C'était des gens qui commentaient l'actualité. Mais à la TV, Jacques Moisan, Bernard de Rome, tout ça, c'était plus trade. Et là est arrivé un des premiers, Jean-Luc Mongrain. Hey, moi, j'écoutais ça, je regardais ça, là. J'aimais vraiment ça. Il a changé un peu. Au fil des ans, il s'est adouci un peu, mais il a été marquant. Pour la télé québécoise. Pascal, tu l'as rencontré?
Oui, puis il a pas juste été marquant pour la télé québécoise parce qu'il a commencé en tant qu'enseignant, hein, Jean-Luc Mongrain. Il enseignait les religions à l'école secondaire. Puis c'est un peu...
Au début, hein?
Ouais. C'est un peu l'enseignement qui lui a donné le goût des communications.
OK, on écoute ça.
J'ai compris là que je devais aller en communication, par exemple. C'est une jeune fille qui m'a donné une leçon dans la classe et j'enseigne sciences religieuses. Le programme, c'était... Dieu vous aime comme votre père vous aime. Alors, je commence. Il y a une jeune fille en arrière qui lève la main. Puis elle dit, tu peux laisser faire ton bon Dieu, monsieur le professeur, parce que moi, mon père, hier, il a battu ma main puis il m'a mis dehors. Alors là, j'ai compris que l'activité pédagogique qui découlait de ce principe de base était complètement pas en accord avec le vécu des gens à qui tu l'as à l'enseigner. Donc, c'était mauvais comme programme, pas comme intention. Comme façon de faire. Alors, j'ai changé la façon de faire. J'ai dit, écoutez, on va passer à d'autres choses. Vous allez tous me faire un journal. Vous allez tenir un journal personnel de ce que c'est qui est votre vie. Toutes les semaines, je vais ramasser ça, puis je vais voir ce que moi, je peux trouver pour être capable de répondre à vos inquiétudes, vos problèmes, etc., etc. Puis ça reste confidentiel. Moi, je le lis, j'en parle pas aux autres.
C'est bon. Fait qu'au lieu de partir du grand principe, du grand enseignement, mm-hmm. du grand livre, la Bible puis le programme, Mongrain a dit, je vais me mettre au diapason, je vais me mettre au niveau du monde.
Exact.
Puis pour cette jeune fille-là, c'est un peu... Moi, mon père, il bat ma mère, puis ouais. Il me sac des hanches.
Laisse-moi faire Dieu, puis tout puissant, puis l'amour. Là.
Ouais. Fait qu'à partir de là, il écrivait un journal.
Exactement. Puis il se basait sur ce que ses élèves vivaient pour faire son cours.
Puis
il n'y a aucune idée, elle est où, cette jeune fille-là, maintenant. Mais c'est vraiment grâce à elle qu'il s'est lancé dans les communications, parce qu'il s'est rendu compte que ça valait le coup de se positionner dans la vraie vie des gens. Puis il a l'impression aussi d'avoir changé les choses, puis démocratiser le journalisme quand tu es rentré dans les communications, c'est un peu sa fierté personnelle.
Oui, j'ai changé les choses. Et en même temps, j'ai changé les choses parce que les gens ont de la difficulté avec il y a une résistance au changement. Ah, OK, bulletin de nouvelles, ça marche de même, ça se fait de même, ça s'est toujours fait de même. Il faut continuer à faire ça comme ça. Moi, je regardais la télévision les 6 mois où j'en ai pas fait. 80 ans, tout juste avant d'arriver à TQS, j'avais fait Télé-Québec. Mon contrat était terminé. Alors, je faisais plus de production que d'animation. Et à un moment donné, Luc Doyon, qui était le vice-président principal, chef des opérations chez TQS, m'a dit, Jean-Luc, viens t'en donc. J'ai dit, on va faire quoi? Ben, je sais pas, mais il dit, faut que tu t'en viennes. J'ai dit, moi, c'est une nouvelle que je veux faire. Lui-même a sursauté, parce qu'un bulletin de nouvelles, c'est pas ça dans l'imaginaire des gens. Mais moi, j'ai passé 6 mois à regarder les nouvelles. Puis je regardais les nouvelles comme un téléspectateur regarde les nouvelles. C'est-à-dire, tu vois quelque chose, tu te dis, ben, mon Dieu, ça se peut pas. Puis là, ta conjointe ou ton conjoint sont pas devant l'écran. Je lui dis, hey, viens voir ça, ça n'a pas d'allure. Et là, tout le monde regarde ça, puis il y a un commentaire qui se fait, là. Alors, je le commentais de mon salon, je regarde ça, mais je dis, ben voyons, ça n'a pas d'allure. Il faudrait qu'il s'enlève de là. Puis comment ça se fait que le ministre a répondu ça? Ça n'a pas de bon sens. Alors, j'ai dit à Luc, on va faire le bulletin de nouvelles si tu n'as pas d'objection et si les propriétaires n'ont pas d'objection. Et quand tu n'as pas de rating, ils n'ont pas d'objection. Ça a marché. Ça a marché parce que les gens s'y sont retrouvés. J'ai mis de l'émotion dans un bulletin de nouvelles. J'ai mis du commentaire dans le bulletin de nouvelles. Et oui, ça a eu l'heure de plaire et je me suis aperçu que l'industrie a modifié sa façon de faire.
C'est vrai qu'il a été pionnier, là. Je l'ai dit tantôt. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde est rendu dans l'émotion. sais, autrefois, Mongrain, il y avait Mongrain, mais il restait des bulletins de nouvelles encore neutres, où tu pouvais avoir l'information brute, factuelle, détaillée. Moi, c'est rendu aujourd'hui autant, honnêtement, j'ai beaucoup regardé Jean-Luc Mongrain, mais je m'ennuie des Jacques Moisan et des Bernard de Rome. Parce que là, ils sont tous dans le commentaire, l'émotion, l'éditorial. Mais Mongrain est un pionnier.
Oui, puis je lui ai demandé de réagir aux critiques de sensationnalisme aussi par rapport à ça. Ouais. Parce que tu passais d'un bulletin de nouvelles qui était très corporate, si tu me permets l'expression, à quelque chose de plus funky. Là. On sortait du cadre.
Oui.
Mais il y a sa réponse.
Ben, je dis à ces gens-là, inondez votre maison jusqu'au plancher. Vous allez voir avec les sensations que vous allez avoir. C'est sûr que si tu restes sur ta colline de Haute-Savoie, si tu te nourris, n'est-ce pas, de... Eh bien, non, il faut vraiment dire les choses comme elles sont, mais pas savoir ce que c'est. J'ai aucun problème avec ça, qui s'arrange. Et c'est pas du populisme, ça. C'est de la réalité. En aseptisant l'information, tu soustrais les gens à une dimension de la connaissance nécessaire pour dire « Moi, je suis un citoyen et je suis concerné. » Je me souviens d'avoir voulu faire un reportage et un sujet d'émission sur la guerre en Afghanistan. La direction des nouvelles m'a dit, Jean-Luc, la guerre en Afghanistan, on est au Québec, on est à Montréal. Penses-tu que ça va intéresser le monde? C'est loin, le Pakistan, Jean-Luc. Alors, j'ai répondu, quand le petit Tremblay de Shawinigan va revenir dans un sac en plastique avec un zipper, sa mère va s'apercevoir que l'Afghanistan, c'est dans sa cour.
Il a raison. Elle va marquer son ton de voix. Il y a de quoi que j'ai découvert sur Jean-Luc Mongrain, puis si jamais il écoute ça, là, c'est pas négatif, là. Mais c'est un peu le Jean Chrétien des médias. Vous savez que Jean Chrétien, quand les micros sont fermés, va peut-être vous l'apprendre, là, il parle très bien.
Mm-hmm.
Voyons donc, on l'entend, le petit gars de Shawinigan, il fait exprès. Il adopte un ton populaire. Quand il parle à un journaliste de la presse écrite, Jean Chrétien a un très bon français. Oui, mais donc, il donne un show. Ben oui, il a compris. Depuis le début, là, vous l'écoutez, là, parler avec Pascal, il y a un très bon français, il y a un très bon ton, M. Mongrain.
Mm-hmm.
Juste à la fin de cette cote-là, il prend un petit peu son ton de personnage qu'on voyait à l'écran. Puis au fil des années, ça a changé un peu. Mais c'est brillant. Il parlait le langage du monde. Mais son français est excellent. Là.
Mais parlons-en de politique, si tu fais le comparatif.
Oui.
Parce qu'il y a beaucoup de critiques à l'endroit de la politique actuelle, la politique spectacle. Toi, tu dis, certains bulletins de nouvelles neutres me manquent, mais pour lui, c'est la politique neutre qui lui manque.
Ah, oui.
Il y a des politiciens qui n'ont pas le même agenda que nous. Il dit que le leur, c'est 4 ans, puis nous, ben notre agenda, c'est le restant de nos jours. Prends sa belle-mère qui est Alzheimer, il dit, moi, elle va rester toute sa vie malade, puis ça va être la fin de ses jours comme ça. Il critique aussi la manière de le faire. Il ne croit pas vraiment à de la politique autrement.
Il y a une façon, il y a un protocole. On peut bien contester, dire, rah, 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 c'est pas de même, puis garde, moi, j'y vais, puis je garde mes jeans. Parfait. Mais c'est pas ça. Il n'y a pas un joueur du Canadien qui rentre là avec son propre chandail. Ils sont équipés en Canadien puis tu reconnais comme les joueurs du Canadien. La réalité, c'est pas ça. Ça, c'est tomber dans le piège de l'apparence. Et on n'a plus le temps de jouer à l'apparence. On a des défis collectifs majeurs, importants. Alors, bâtir sa popularité parce qu'on veut être différent, c'est de la contestation, comme quand moi, je suis arrivé chez nous avec les cheveux jusqu'ici. On fait, moi, dis, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Est-ce qu'il n'y avait pas dans ma décision un peu de marginalisation pour... Peut-être. Ben, c'est correct. C'est sain. Je trouve ça le fun. Ça fait réfléchir les autres. Mais ça ne dirige pas un pays, ça.
Ouais. Alors, on a comme cru comprendre qu'il parlait de quelqu'un. Pas besoin de la nommer. Mais il y en a peut-être qui vont dire, ouais, c'est... l'image est rendue très, très, très importante aujourd'hui.
Ah ouais. Puis il dit, tant que la politique sera un sport extrême comme celui qu'on voit, il dit, l'intention de faire en sorte que l'autre a l'air fou, mettons, là.
Ouais.
Mais il dit, il y aura plus de batailles que de points comptés. Puis il trouve ça très, très, très problématique. On a parlé aussi de ces vidéos virales qui sont encore extrêmement consultées. Tu vas sur YouTube,
oui.
Ben, ça augmente à chaque année pareil.
C'est devenu un mime,
les gens vont aller voir les écureuils, ils vont aller voir les diotangues. Je lui ai dit, est-ce que ça te surprend, ça, cette popularité-là? Qui te colle à la peau encore plusieurs années plus tard.
De voir que parmi tout ce que j'ai fait, c'est ça qu'on tient. Les écureuils, là, je les connais, je peux te les faire par cœur. Je me souviens très bien de ça. Sur l'immigration, je me souviens très bien de ça. Alors, je m'en souviens de tous. Sur les duotangues, etc. Pour moi, c'est pas quelque chose qui est important ou qui compte. Je suis flatteur de voir que le monde y retourne, mais ils vont là comme pour voir quelqu'un qui tombe sur la glace. Tu sais, il faut le voir pour le croire. T'sais. C'est de cette nature-là. Pour moi, ça ne résume pas ce que j'ai fait. et ça n'identifie pas ce que j'ai fait.
Non, mais c'est des moments d'authenticité.
Ben oui.
C'est parce qu'on sent que, justement, là, on aime ça quand ça improvise un peu, là. Ça fait que, à moins que tout était planifié, mais je pense pas. Je pense que des fois, ça déborde un peu.
S'il y avait un cours universitaire de public... pétage de coche, ce serait probablement dans le plan de cours.
Oui, on retient ça.
Il serait bon, hein, pour le donner. Oui. Ben, c'est sûr qu'on a parlé de vidéos virales, ça l'amène à me parler de réseaux sociaux.
Parlons des réseaux sociaux. Ceux et celles qui utilisent ça et qui pensent qu'ils se font un acte solitaire où ils sont seuls. Je pense aux jeunes filles qui sont exploitées. Je pense aux arnaques qui se créent. Ça, je trouve ça incroyable. Comment les gens sont encore naïfs. On connaît tout, mais on est naïfs. Alors ça, j'ai un petit peu de misère avec ça. Ça me fait peur. Mais l'autre du volet qui m'inquiète davantage, c'est celui de l'opinion. Moi, je suis d'accord à ce que les gens aient des opinions. Le problème qu'ils ont, c'est que leur opinion n'est pas nourrie d'une logique. C'est nourri de l'anonymat et de la frustration, de la haine. Ça, pour moi, c'est quelque chose qui traduit une détresse profonde, une ignorance incroyable. Comment on peut dire des insanités sous le couvert de l'anonymat et remonter de notre sous-sol où on est isolé, puis saluer ses enfants, sa conjointe, son conjoint? « Allô, je suis content de te voir, comment ça va? » Puis tu viens d'en bas d'être Dr. Jekyll and Mr. Hyde. Ça m'insulte. Ça m'inquiète.
Je suis parfaitement d'accord. C'est la semaine dernière que je vous lançais un défi. C'est quand la dernière fois sur Facebook, vous avez vu une discussion, là, tu sais, on lit les commentaires, puis vous avez
entendu... C'était lundi. C'était hier matin?
Pas trop.
C'était hier matin.
Quand je dis des affaires, je ne sais jamais c'est quand, ouais. trop. Que vous avez lu « Hey, bon point. » Hey, tu me fais réfléchir. Hey, je suis en train de lire ça, puis je change d'idée. Hey, j'avais pas vu ça sous cet angle-là. Merci d'avoir pris la peine de... Ça m'ébranle un peu dans mes convictions. Hein? Ben, t'as raison, Sylvain. Je mets au défi. Trouvez-moi un fil de commentaires, de discussions. Allez voir sur les pages de ceux qui en ont 3, 4, 500, là. OK? Il y en a des pages populaires, là. On en a ici des collègues qui ont des pages. Moi, je suis pas trop là-dedans, mais il y en a plein, là. Tout ce que vous... Mongrain a raison. Beaucoup de haine, beaucoup de mépris. D'abord, c'est tout du monde qui disent la même affaire. Oui. Des fois, ils sont 400, mais les 400 disent la même affaire.
Une chorale.
Chorale, de moutons, puis c'est de la haine, du mépris. Il n'y a pas de discussion, il n'y a pas de débat.
C'est de la détresse.
C'est rare que tu vois... Hey, je participe à votre discussion, je trouve ça le fun, les arguments, tout le monde m'avait fait réfléchir. Non. C'est juste du... Ouais. Ah ouais, on varge, puis anonymement, puis go.
Puis on discutait, puis j'ai dit, ben c'était pas ça avant. Mettons, les gens faisaient pas ça autour d'un souper ensemble. Il dit, non, ma tante Carole, là, elle se gardait une gêne, parce qu'après ça, elle voulait pas que l'amande pogne dans le souper de famille.
Il y avait un genre de respect. Quand t'as la personne en avant de toi,
c'est ça. Oui, fait que c'est totalement différent. Quand on parle de réseaux sociaux, ben c'est rare qu'on évite le sujet des milléniaux aussi.
À certains moments, je trouve qu'ils tirent pas sur le bon canard s'ils veulent... faire vraiment toute leur place. C'est pas en enlevant les autres qu'on fait sa place, c'est en se joignant aux autres. Il y a une génération de jeunes gens, qui, et je les comprends, qui disent « c'est à mon tour, c'est à notre tour ». Et ils ont raison, parce que, à quelque part, la génération de ce qu'on appelle les « boomers », mais j'ai failli faire cette distinction-là, mais ce qu'on appelle la génération des « boomers » est encore dans des endroits de pouvoir et de décision pour beaucoup. Est-ce qu'il faut se débarrasser de ça ou se joindre à ça pour essayer de peut-être modifier, modeler davantage aux besoins d'une nouvelle génération la réalité qui nous confronte? Mais je sens qu'on est souvent dans l'accusation. Les baby boomers, vous avez scrappé la planète. Vous n'avez pas pensé à l'environnement. Vous êtes endettés. Vous n'avez pas pensé que c'est nous qui supporterons cela. Je comprends ce discours-là. Mais en même temps, c'est nous qui avons amené l'éducation gratuite. C'est nous qui avons amené un système de santé universel que les gens critiquent, bien sûr, mais qui fait en sorte que tu n'es pas obligé de te ruiner pour te faire soigner. Alors ça aussi, il y a un héritage. Et on dirait qu'on ne veut pas assumer l'héritage et l'amener, le modeler à ce qu'on veut. Moi, j'ai hérité de la voiture de mon père quand il est décédé. C'est sûr que c'était peut-être pas la voiture de mes rêves, mais je l'ai arrangée, puis j'ai fait un bon bout avec. Alors, c'est comme ça, pour à mon point de vue, le pont intergénérationnel, je pense que c'était quelque chose d'important.
C'est bien dit quand même.
Hein? Oui, c'est très bien dit. Ouais. C'est vrai qu'on a tendance, des fois, mais les conflits entre les générations, c'est pas nouveau.
Non.
Là. Ça a toujours été... Ah, quand ça commence, la France, par les jeunes aujourd'hui, hein? Ouais, puis les vieux, eux autres. Hey boy. Là, on est dans le cliché un peu des fois.
Je lui ai demandé de me parler de ses fiertés quand même. Il a une bonne carrière en oui. arrière de lui. Puis il a quand même porté des causes de plusieurs personnes qui n'avaient pas de micro, qui n'avaient pas la possibilité de faire changer certains dossiers. Puis il se rappelle d'un dossier là, très, très clair en mémoire. C'était celui de l'histoire d'un jeune garçon qui avait des problèmes avec la justice.
Ce jeune homme-là est en vacances en Floride avec sa famille. C'est un peu dysfonctionnel comme relation, on le comprendra. À un moment donné, la soupape a sauté et il a agressé et tué sa mère. Il était emprisonné là-bas. Son père m'a appelé et il dit, écoutez, c'est incroyable ce qui est arrivé, c'est inacceptable. Déjà, je suis veuf, mais je voudrais pas que mon fils passe à la chaise électrique. Il faut qu'il paie pour ce qu'il a fait, je comprends ça. Je suis d'accord avec ça. Puis qu'on lui vienne en aide, etc., etc. Mais pas sur le dos en vôtre. Donc, on a travaillé pour le ramener ici. J'ai été rencontré en prison là-bas, le jeune homme. On a fait l'entrevue, influencé le système, puis on l'a ramené ici. Ben voilà quelque chose d'inacceptable, mais qui ne mérite pas, à mon point de vue, la peine capitale. Personnellement, je suis contre la peine capitale. Parce que si la peine capitale était efficace et dissuasive, ça fait longtemps qu'il n'y aurait plus de crimes majeurs comme ça.
Surtout aux États-Unis, mm-hmm. où le crime est plus élevé que partout ailleurs et que c'est encore un des rares endroits dans le monde où il y a la peine capitale. Alors, visiblement, il ne semble pas y avoir d'impact entre les deux. Encore plus, je sais que là-dessus, le débat est... Si je comprends bien, c'était un mineur, là. Ou ado, ou en tout cas...
Il disait
que c'était un jeune garçon, là. Encore plus. Donc... une de ses fiertés.
Oui, ben c'est sûr qu'on passe pas à côté des tasses non plus, là, qui a vendu pendant des années avec Daniel Germain, le président des clubs,
du club des petits déjeuners. Ah, c'est lui, c'est un de ceux qui a mis
millions,
ça sur la map.
3 millions de dollars ramassés en 5-6 ans énorme. En vente de tasses là, au dépanneur Couche-Tard. C'est incroyable quand même.
Oui.
Puis je termine en parlant de Jean-Luc Mongrain en 2019. Est-ce qu'on va le revoir? Va-tu revenir dans les médias? Lui, il ferme pas la porte. Il dit, ce serait pas bien de ma part de dire jamais plus je vais revenir. Il dit, par contre, je trippe là, en tant que producteur. J'ai plein d'idées. D'émission, mais il préfère, parce que le domaine est dans les eaux troubles, laisser la vague passer et voir si il va revenir à un moment donné.
Derrière la caméra.
Ou devant.
Ah ouais, parce que là, il est derrière la caméra mm-hmm. comme producteur, mais il pourrait revenir devant la caméra. 8h24, est-ce qu'on a le temps de se rappeler quelques petits souvenirs de Jean-Luc Mongrain?
Alors, regardez bien l'organigramme. Peux-tu montrer l'organigramme du ministère de l'Éducation puis son fonctionnement, s'il vous plaît? Je veux juste vous dire que mon écran mesure 50 pouces. Je suis pas capable de rien lire tellement il y a du monde là-dedans. Oui. Montre-le au complet. Ferme-moi disparaître. Garde-moi ça. Ça n'a aucun bon sens.
Tu sais comment il parle pas pareil? Il y a pas, vous avez écouté le langage, le niveau de langage dans l'entrevue avec Pascal et son niveau de langage là, ça c'est un petit peu du Jean Chrétien. C'est pas mauvais là.
Non, mais, au contraire.
Mais tantôt on l'écoutait, je suis sûr qu'il y en a parmi nos auditeurs, c'est-tu bien Mongrain ça? Il me semble qu'il parlait pas comme ça. Hein, oui, un petit bout de Minou. Les inondations.
Vous voyez, hein, c'est un sauve qui peut. Minou. Minou. Qu'est-ce que tu fais?
C'est Zorro.
Il s'appelle Zorro. Pareil comme le mien. Minou, viens-t'en, reste pas là, Minou. Viens-t'en, mon grand. Viens, attends une minute. Viens-t'en.
On va arrêter, il veut pas que... C'est un peu...
Mais... Ah, c'est ça qu'il veut pas qu'on fasse.
Non, mais c'est ça qu'on a dans nos archives.
Ben oui, mais c'est ça pareil.
J'en ai pas d'extrait du bout où il a permis à un jeune enfant condamné à chaise électrique aux États-Unis d'être sauvé. Je l'ai pas, ce bout-là. Mais c'est un peu normal qu'on retient les bouts un peu les plus extrêmes, les extrêmes. Mais moi, je suis capable de me souvenir du reste aussi.
Ben oui, c'est sûr.
Il y en a brassé des politiciens. Tu sais, avant, à TV, il l'avait facile pas mal. C'est un des premiers à la télé, à la radio, ça existait avant. Mais à faire des entrevues serrées, là. Les gens avaient des trucs pour... Voulez-vous que je vous en compte un? Les politiciens se faisaient enseigner comment aller affronter Jean-Luc Mongrain. Et un des trucs... Pourquoi tu ris?
Parce que tu ne crois pas.
Ben oui, oui, il m'a même te compté le truc. Mongrain avait l'habitude, mettons, là, que évidemment qu'on était à la radio, là, mais imaginez-le dans son studio avec sa chaise, son bureau, puis le politicien est à sa droite. Mongrain s'avançait tout le temps avec ses bras là, sur le plateau pour être... Il prenait la place.
Ouais.
Et les politiciens s'étaient fait dire, si tu veux contrer Mongrain puis le rendre mal à l'aise, assis-toi, les deux mains, les bras avancés sur le bureau devant lui. Il pourra pas aller se mettre nez à nez avec toi. Il va se reculer sur son fauteuil puis il va perdre un peu de sa...
Ça marchait-tu?
De son emprise. Je sais pas. Mais on l'avait remarqué. Un moment donné, les politiciens habiles, dès qu'ils s'assoyaient devant Mongrain...
C'était quasiment louche, là. Ils sont même pas assis, puis déjà, les bras sont en avant.
Ils s'avançaient sur la table. Comprenez ce que je veux dire, là? Pour pas que, ben là, mon grain ne pouvait pas le faire. Ça aurait eu l'air, vraiment.
Il met par-dessus.
Nez à nez. Fait que là, mon grain restait un peu sur sa chaise. Ça, c'est un exemple. Et la personne qui me dit ça, elle travaillait dans ce milieu-là, en politique. Alors, il y en avait peut-être d'autres aussi, mais bref, les gens le craignaient vraiment parce qu'ils savaient que ça allait pas être évident. Alors,
je trouve ça excellent. Mais c'est ça, faut le penser avec un homme comme ça, un homme de médias qui passe pas par le dos de l'écuyère, comme on dit.
Exactement.
Il devait y avoir des gens qui refusaient d'aller en entrevue avec lui aussi, je suis convaincue. Comme c'est le cas avec certains animateurs aujourd'hui, là, t'as des gens qui refusent d'aller en entrevue avec certaines personnes. À l'époque, avec Jean-Luc Mongrain, ça devait être la même chose, là. Il devait y avoir des gens qui disaient, j'irai pas là, je vais mal paraître. Ça sert à rien, j'ai rien à gagner.
Et il disait qu'aujourd'hui, puis ça encore là, je le blâme pas, mais il faut être honnête, là. Il parlait des politiciennes ou politiciens.
On sait pas.
Beaucoup dans l'image, l'image et l'image. Mais dans le cas de M. Mongrain, il contrôlait très bien l'image. Ses yeux, là.
Oui, ben oui, c'est vrai.
C'est devenu une joke. Ouais. Mais c'était voulu vraiment de regarder la caméra comme s'il y avait quelqu'un avec les gros yeux. Ça faisait partie du personnage et ça explique son succès en partie.
Ah oui, puis il me racontait, là, mes caméramans, là, ils devaient me suivre. Puis c'était tout un exercice pour eux. Parce que si je suis rendue en bas parce que j'étais en train de pointer l'organigramme puis dire que votre enfant, là, il se trouve au fond de l'organigramme, en bas complètement, il
faut
dit, suis-moi. Suis-moi. Puis je vais là, puis tu me suis. Puis je fais des yeux, tu me zoomes mes yeux. C'était tout un exercice, ça.
Là, tu tapes la petite montée de lait en terminant, juste un petit bout, là. Ça, c'est un de mes extraits préférés, celui-là.
C'est pas à faute des nègres, c'est pas à faute des arabes, c'est pas à faute des tamouls. C'est notre propre faute que nous avons créé présentement une société qui a rien, là. Qu'est-ce que ça donne? Je m'en fous. Dans mon cul, il continue, et ça va continuer comme ça. Ça n'a pas de bon sens. Pourquoi? Parce que nous avons entretenu la médiocrité. Ça vaut pas la peine de t'abonner. Vous allez chialer contre les immigrants. Moi, vous dire de quoi, moi? Dans le temps que j'étais petit gars, ça le Saint-Hubert, en avant de chez nous, il y avait deux Italiens qui étaient là. Tout le village, on les regardait, on disait, hey, ils restent ensemble dans le restaurant, ça doit être des homosexuels, ça. Hein? C'est ça qu'on s'amusait à faire, nous autres. On était là pour les regarder affaires. Il y en avait un qui couchait en arrière du comptoir, madame. Puis l'autre faisait de la pizza 20 heures sur 24.
Ouais, mais il donne des
trois ans points, après, non? Il était propriétaire du bloc, pis c'est moi qui étais à logement chez eux.
Ce que j'aime dans tout cet extrait-là, c'est que, vous l'avez peut-être compris, il y a une madame au téléphone avec lui.
Ouais.
Mais on l'entend jamais. Il fait ça dure 15 minutes. Elle a fait juste dire des fois, ouais, effectivement, il l'a gardé avec.